universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe will get busted.
Pendant qu'Anneke nous faisait couler des larmes avec amour, la critique cannoise s'étripait sur un film étrange qui, lui, faisait couler de l'encre. Étrange objet, en effet, que ces bêtes du sud sauvage, qui faisaient couvrir à la critique tout le champ des émotions humaines, de l'enthousiasme le plus franc à la plus vive consternation. Son réalisateur, Ben Zeitlin, a reçu la caméra d'or à Cannes, et le public français découvrira son film le 12 décembre prochain. J'étais donc à Cambridge et je m'y ennuyais. Il se trouve que ce qui fait sale comble dans les cinémas anglais en ce moment, croyez-le ou non, ce sont les deux plus gros succès français de l'année. Vous parlez d'un dépaysement. Malgré la pluie glaciale qui me poussait dans ce cinéma, je me refusais à revoir Intouchables et De rouille et d'os. Pas par anti-chauvinisme, mais parce que ce sont des films horripilants que j'ai détestés l'un comme l'autre. Là-dedans, malgré sa caméra d'or, Les Bêtes du Sud Sauvage faisaient figure d'outsider héroïque et de porte-étendard du film indépendant. Je suis entré. L'affiche du film est un mystère. On devine une enfant qui court entre des feux d'artifice. Le titre plaît. Décalé, il évoque la fantaisie, la démesure du conte et de l'imaginaire enfantin. Il convoque 1000 territoires fantastiques sans rien vous révéler du contenu. Ben Zeitlin vous appâte avec un premier film hybride entre chronique sociale, drame familial et conte pour adultes. Hybridité palpable dès les premières images. À hauteur d'enfant, caméra à l'épaule, on suit Hush Puppy dans sa maison, entassement de pneus, de tôles et de débris, élevé en labyrinthe précaire, jonché des restes d'une ville qu'on ne verra jamais. Dans ce monde, on accepte sans problème l'incursion fantastique, sous la forme d'un rêve éveillé, d'icebergs monumentaux et d'orocs préhistoriques. A l'inverse, les données les plus concrètes, l'apparition du père en tenue d'hôpital, en plein milieu du marais, tiennent lieu de manifestations fantastiques. Wink, le père de l'héroïne, est malade. Il va mourir et le sait. Tout à coup, le bayou est frappé par un ouragan qui déchaîne la nature et libère les bêtes du sud sauvage. Tout est noyé sous la mer, puis tout meurt, contaminé par les déversements toxiques des usines détruites par la tempête. Wink enseigne la survie à sa fille. Pour l'endurcir, une relation atypique s'installe alors entre eux. Une tendresse faite de violence et d'amour vache, où le plus blessé des deux n'est pas celui qu'on pense. C'est que l'enfant est coriace. Elle a de l'hostilité à revendre. Kouven Zanewalis fait une prestation énergique qui colle tout à fait au personnage. Sensible et butée, elle sublime les angoisses et les pulsions de mort de l'enfant en une énergie extraordinaire qui lui permet de vivre et de se battre. Cette ambiguïté préservée de l'enfance et cette puissance ne sont pas étrangères au succès du film à Cannes. Cette énergie à survivre coûte que coûte est si forte qu'elle devient le seul moteur du film, par-delà les personnages eux-mêmes. À l'heure où les héroïnes se font rares à l'écran, Hush Puppy fait donc très fort. Et comme elle, Zeitlin voit très grand. Il fait un conte, là où on attendait un documentaire, et sur la charpente du conte, il tente de bâtir un mythe. Bidonville idyllique, le bayou est un Éden, où blancs et noirs vivent dans une pauvreté fraternelle, loin des divisions de l'Amérique moderne. Bref, Zeitlin transforme son ghetto social en archétype mythologique et son bayou en paradis biblique. Et c'est là peut-être que la superbe machine à conter se grippe. Au moment précis où le voyage psychique de l'enfant, qui doit exorciser ses peurs à travers les bêtes du sud sauvage, prétend atteindre à une portée universelle sous la forme d'une fable climatique. Sur l'écran, ça passe. Le film doit se vivre en salle. C'est là que l'ambition du réalisateur est tenue, caméra virevoltante, au plus près des hommes partagés entre la fuite et la violence. Épatant sens du rythme, soutenu par une excellente BO. Basse définition qui rend concrète les textures des arbres, de l'eau, de la terre. Il y a de ces moments terribles, inoubliables, de scènes sous les abris de tôle pendant que l'ouragan les fait trembler. Sans parler de la superbe séquence pyrotechnique qu'on aperçoit sur l'affiche. Dans la salle d'à côté, les spectateurs d'Intouchables devaient se contenter d'un parapente et de musique disco, c'est vous dire. La machine se grille lorsque l'effet documentaire prétend nous faire prendre cette idyllique bidonville pour argent comptant. Mais la machine était déjà agrippée, et ce même en amont du film. Court 13, le collectif à l'origine des bêtes du sud sauvage, prône une sorte de cinéma vérité proche du réalisme magique, sous forme d'un recours au système D, au do-it-yourself matiné de discours de retour à la nature. Les acteurs sont du coin, Kouven Zanewalis est une débutante d'Houma en Louisiane, Dwight Henry qui joue son père n'est pas acteur mais boulanger. Tous deux sont épatants. Si le manifeste de Court 13 passe très bien sur la pellicule, c'est beaucoup moins évident sur le plan des idées. Leur credo suspend très bien la méfiance tant que dure le film. Ce qui nous reste donc à la sortie, c'est quoi? C'est justement la méfiance. Une vague impression d'avoir été roulé comme on nous roule, souvent d'ailleurs avec les récompenses cannoises. Qu'est-ce qui nous roule? Le manque d'originalité du manifeste, certes, ça ne fait aucun doute. La voix de l'enfant, peut-être. Une voix off incessante qui adonne 2 heures durant des aphorismes vagues sur l'équilibre de l'univers. Zeitlin entre à Cannes dans les traces du Tree of Life, la palme d'or la plus problématique de l'histoire depuis Le Monde du Silence. Adieu critique, adieu histoire, le spectateur n'aura que la sensation. Hush Puppy, 6 ans, confronté à la pollution de masse et à la déportation climatique, parle aux bêtes, accorde son cœur au rythme primordiaux du monde. L'esthétique de départ, réussie, laisse donc place à des raffinements de mise en scène vraiment surprenants. Travelling large, musique en crescendo, effets numériques. On ne se plaint ni de l'un ni de l'autre de ses choix de mise en scène, mais bien de l'écart entre les deux, car on a de plus en plus de mal à comprendre où il veut en venir. Entre deux travelling, ou bien entre deux aurochs, la caméra à l'épaule a juste l'air d'être là pour faire authentique, comme une sorte de tampon certificat de moralité du film d'auteur. On attendait compte qu'il nous parle de notre monde, mais à notre grand désespoir, peu à peu le film déraille et atterrit à côté de son sujet. Tout cela n'aura été qu'un franc coup de poing, asséné dans l'eau boueuse de la métaphysique de bazar.
Flying around in invisible pieces. I see that I'm a little piece of a big, big universe.
Quant à l'idyllique bidonville dont je parlais, on voit tout de suite que le problème réside dans la formulation. En dépeignant cette utopie, en célébrant son mode de vie et son autonomie qu'elle défend désespérément, en refusant enfin d'inscrire son conte dans un contexte plus tangible, Zeitlin a cédé à toutes les sirènes de l'exotisme. Il s'agit moins du bayou que d'un fantasme primitiviste, qui au pire rend une image bestiale des gens qu'il est censé célébrer, et au mieux occulte complètement la dimension humaine du film et tous ses personnages. Zeitlin ne raconte plus, il exhibe. Il n'agite que des marionnettes archétypales et sans conséquence. La scène qui a le plus choqué les critiques américains est peut-être celle qui restaure enfin l'ambiguïté que Zeitlin avait perdue en route. La communauté se met à violenter les médecins et les ONG qui interviennent sur le sinistre. La perspective enfin change. Sondes, analyses, dons de repas et de vêtements sont filmés comme autant d'humiliations. Le groupe se rebelle pour retrouver le bayou et les aurochs. En présentant le sauvetage comme une agression, ils romantisent davantage la condition des habitants du bayou. Dans le même temps, ils montrent comment l'intervention des sauveteurs est capable de diluer la communauté qui se voulait autrefois soudée. D'où leur héroïsme désespéré, ambivalent, mais néanmoins émouvant. Trop rare ambiguïté qui surnage à peine dans cette célébration d'un animisme trop frelaté. Précisons que Les Bêtes du Sud Sauvage est un point de vue citadin sur le bayou. Zeitlin, new-yorkais, est sorti de la fac de cinéma qu'il y a quelques années. Son film a les défauts de ses qualités. La caméra d'or a choisi pour nous, mais la faute en incombe-t-elle au film ou bien à l'esprit de la sélection cannoise? D'un côté, un Sud sauvage stéréotypé, un idéalisme transformé en sentimentalisme puis en condescendance, un animisme emprunté qui ne bouscule jamais les codes du réalisme magique. De l'autre, heureusement, une histoire, riche, multiréférencée, profondément émouvante, sur la sortie de l'enfance. Une mise en scène magistrale, un ouragan de rire, de larmes et d'émotions vous soulève, vous emporte et excuse in extremis tous les défauts du film. Reste que, dans la tourmente de décembre, ce conte qui manque un peu son sujet se prête parfaitement au visionnage en salle, à l'abri et bien au chaud.
Once there was a hush puppy, she lived with her daddy in the bathtub.